you. Are you racing or watching?
La dispute littérature.
Autour de moi, ce soir, Raphaël Léris, Grégoire le Ménager, Jean-Christophe Briançon, pour parler ensemble des prix littéraires d'automne, en tout cas ceux qu'on connaît à ce jour, les prix Goncourt, Renaudot, Fémina et du roman de l'Académie française.
Le prix Goncourt 2019 a été attribué au deuxième tour de scrutin à Jean-Paul Dubois pour « Tous les hommes n'habitent pas le même monde » aux éditions de L'Olivier par 6 voix contre 4 à Amélie Nothomb pour « Soif » chez Albin Michel. Avait obtenu des voix au premier tour Jean-Luc Coatalem pour « La part du fils » chez Stock et Olivier Rollin pour « Extérieur monde » Gallimard.
Non, on était presque en direct là. Hein, vous avez cru ou pas ? Jean-Christophe Briançon, vous êtes d'une naïveté confondante. On ouvre bien sûr cette dispute avec ce prix Goncourt 2019 décerné à Jean-Paul Dubois. Comme nous étions nombreux dans l'équipe critique de la dispute et bien au-delà à le souhaiter, nous avions parlé de ce livre dans notre émission du 19 septembre. Pour rappel, « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » publié aux éditions de L'Olivier, nous fait découvrir son personnage principal, son héros peut-être, Paul, alors qu'il purge une peine de prison pour un crime dont on ne sait rien pendant de très longues pages. Paul qui est visité en cellule par les fantômes des êtres aimés et disparus et qui se remémore. Paul, c'est les événements qui l'ont conduit dans cette cellule partagée. Alors il se trouve par hasard que c'était le même trio critique qui officiait le 19 septembre quand il s'est agi de parler de ce livre. C'est peut-être sans doute ça qui a porté chance à Jean-Paul Dubois. On va reprendre notre débat en mode post-Goncourt. Entre-temps, d'ailleurs, Grégoire le Ménager, vous êtes allé rendre visite au futur lauréat dans sa maison toulisaine, c'est-à-dire dans l'Obs. Qu'est-ce que vous retenez de cet entretien avec lui qui était pré-Goncourt ?
Je retiens une journée extraordinaire parce que c'est un type délicieux, charmant, et je retiens surtout que il était très heureux de me voir, il était très heureux de me parler de ses chiens, de ses buis qui ont été ravagés par un papillon particulièrement vorace cet été. Était très heureux de me montrer le nombre assez incalculable de sons différents qu'on peut produire avec son clavier numérique. Il était charmant, vraiment, c'était très agréable. Sauf que ça l'emmerdait un peu de faire une interview à propos de son livre. C'est quelqu'un d'extrêmement pudique qui m'a très longuement expliqué pourquoi ça le mettait mal à l'aise de parler de ses livres. Et c'était un grand moment, ouais. Il explique pas mal de choses dans cette interview, je crois.
Alors, il y a moins de papillons et de claviers, un petit peu, dans l'entretien, mais vraiment, il faut le lire. C'est vrai que c'est un homme délicieux, ce qui ne gâte rien au reste. Raphaël Léris, beaucoup pronostiqué la victoire d'Amélie Nothomb cette année. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous ?
Alors, au-delà de la qualité littéraire... des deux ouvrages, vous voulez dire ?
Ouais.
Donc, je pense qu'il y a des gens qui savent lire au Goncourt et donc qui ont préféré...
Mais des fois, on se dit oui, qu'ils ne savent pas lire selon les années, donc
mais
c'est ça qui
faux.
Est mystérieux.
En vrai, c'est faux, parce que en vrai, même c'est faux. Très souvent, la rationalité triomphe à la fin. Sur les dernières années, moi, je me suis beaucoup fait très peur en me disant « Mais non, bien sûr, ils vont le donner à Fuenkinos !» Et non, ils ne le donnent pas. Donc non, je crois qu'ils savent lire, dans le fond. Et par ailleurs, il me semble que l'état de la librairie suffit comme argument si on veut faire de la Goncourt. Amélie Nothomb est à 155 000 ventes, ce qui même selon ses propres critères à elle habituels est très
déjà
élevé.
Lui
donner le prix, donc hors de toute considération littéraire, ça veut dire qu'il n'y avait qu'un livre qui se vendait de manière stratosphérique pour les fêtes de fin d'année. Et ça, je pense pas que les libraires l'auraient pardonné au Goncourt.
Bon, raison économique. Peut-être aussi un peu. Jean-Christophe Briançon, il faut dire que si le choix nous paraît aussi bon, c'est que Dubois a écrit là un livre
tout à fait accessible pour un large lectorat, ce qui compte. Mais en même temps, c'est un grand livre de littérature qui est très bien construit, très bien écrit. J'enfile un peu des banalités le concernant, mais ça joue aussi dans l'attribution d'un prix Goncourt qu'un roman puisse rencontrer un grand public. Né qu'en sous-main, il est quand même entre les mains, pour le coup, un grand livre.
Oui, c'est ce qu'on se disait quand on a fait l'émission il y a quelques semaines, que c'était un livre qui était aussi bien accessible pour quelqu'un qui lit un livre par jour que quelqu'un qui en lit un par an. Mmh. C'est exactement la réalité. Je pense que ça s'adresse effectivement à tout le monde, aussi bien les lecteurs les plus pointus que les autres. Et effectivement, c'est un livre qui se démarque par sa construction, par la qualité de sa construction. Pas nécessairement, je vais peut-être me faire des ennemis, mais par la qualité de sa langue, qui est assez simple, bien que ce soit une qualité, la simplicité en matière littéraire. Mais ici, c'est surtout la construction.
Pas de grandes formules comme Sylvain Tesson, on t'en parlera tout à l'heure.
Exactement, on pourra faire le parallèle à travers quelques formules un petit peu grandiloquentes de Monsieur Tesson. Ici, pas de grandiloquence, si ce n'est dans l'intelligence de la construction et la finesse de la perception des sentiments que peuvent éprouver chacun des personnages qui émaillent le roman. Donc c'est une forme de grandiloquence aussi, mais tout en discrétion, qui permet effectivement à chacun d'avoir accès à ce que veut nous dire Jean-Paul Dubois, qui est toujours un petit peu la même chose, mais à chaque fois renouvelé quand même. La perte, l'oubli, le temps qui passe, etc. Autant de choses qui lui sont chères, je crois.
Oui, mais alors, je ne suis pas d'accord avec vous sur cette langue que je trouve magnifique, parce que la simplicité apparente qu'on peut voir chez d'autres, de Modiano à Eschnoz, dont un prochain livre arrive, on est content. C'est pas si simple de faire simple, Raphaël Léris.
Oui, et puis il a des formules très simples, des formules qui ne sont pas grandiloquentes.
Je rigole toujours en lisant Jean-Paul Dubois, ce qui est quand même rare.
Voilà, non, moi je pense que son humanisme dépressif est porté par une langue qui roule pas des mécaniques, mais qui sait se faire entendre à l'occasion de manière très précise et qui fait le plaisir de lire, pour moi, Jean-Paul Dubois aussi.
Grégoire Le Ménager, les qualités de Jean-Paul Dubois, résumées ici.
Mais là, il y a mon camarade Arnaud Sagnard qui a publié un article qui est vraiment pas mal sur le site de l'Obs aujourd'hui, où il fait parler des fans de la première heure de Dubois, des gens qui vraiment le lisent depuis 30 ans.
Il m'a pas appelé.
Ans,
je comprends pas.
Il a pu appeler tout le monde parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Enfin, il y en a pas mal.
Je suis scandalisé.
Il y en a un qui a une formule assez jolie qui dit, mais moi, ce que j'aime beaucoup dans les livres de Dubois, ça rejoint un peu ce que vous dites, c'est que c'est comme quand on rentre dans un bain d'eau tiède. Alors, on se dit, l'eau tiède, c'est fou. L'eau tiède, c'est la pire remarque qu'on puisse faire à propos d'un style, c'est de l'eau tiède. Mais il dit, mais non, c'est comme de l'eau tiède, c'est-à-dire que c'est agréable, mais c'est pas non plus trop chaud ou trop froid, c'est très bien, et parce que le type qui écrit le livre, il est pas là pour nous épater, et ça change de beaucoup de livres où les premières phrases essayent de nous accrocher ou essayent de faire quelque chose. Et là, c'est vrai qu'il y a plein d'effets de style, mais qui sont très feutrés, qui sont très discrets. Il y a quelque chose de très modeste dans son approche de l'écriture, et même dans la structure du livre qui pour le coup est assez classique, assez efficace. C'est pareil, Dubois, il cherche d'abord à nous raconter une histoire, à nous présenter des personnages. Il renoue vraiment avec cette vocation première du roman, quoi. Et plutôt que d'aller faire une construction tarabiscotée qui finit par se casser la figure, il nous prend par la main, il nous entraîne et ça fonctionne tout seul. Et après, à l'intérieur de ça, à un niveau plus micro, ça c'est au niveau assez macroscopique, au niveau plus microscopique, il y a effectivement dans son style, dès qu'on regarde un peu à la loupe, il y a beaucoup d'effets d'ironie qui sont contrebalancés juste après par quelque chose d'émouvant, mais jamais trop, il appuie jamais trop, enfin, ça marche très bien, et puis avec beaucoup, et puis il y a sa vision du monde qui repose sur une attention à des détails techniques très précis, et il nous décrit le fonctionnement de l'organon, enfin, et peut-être que cette manière de raconter comme ça, parce que c'est vraiment un bon conteur aussi,
Complètement.
Il raconte très bien les histoires. Peut-être que ça tient aussi à l'espèce de seringue dans laquelle il se met lui-même en essayant d'écrire ses livres en un mois. Là, moi, j'en revenais pas, honnêtement. Je crois que c'est vrai. Je crois qu'il dit la vérité quand il dit ça. Il me dit, moi, je voulais faire un livre sur ce gardien d'immeuble. Et le matin du 1er mars, quand je me suis mis devant mon ordinateur, je me suis dit, oulala, je vais pas tenir 240 pages sur le gardien d'immeuble. Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh ben, je vais le mettre en prison. Et Donc le premier jour, il décide de le mettre en prison.
Et parce que quand il écrit au mois de mars, il faut que ce soit fini le 31. Voilà, des fois, c'est le 25, des fois, c'est le 28. 30,
entre le 1er et le 31 mars. Et donc, il le met en prison. Et après, ouais, je pense qu'il y a ses souvenirs de reportages en prison qui lui servent. Il y a plein de choses qu'il a amassées qui lui servent et qui mobilisent, mais toujours au service d'une histoire qui avance. Et voilà, et qui avance dans le sens d'une destruction, puisque comme j'explique dans l'interview que vous avez citée, lui, il conçoit une histoire, c'est forcément la destruction de quelque chose de bien. Et effectivement, la plupart de ses romans, me semble-t-il, répondent à ce schéma.
C'est vrai. Et puis, on apprend toujours des choses, alors qu'ils sont utiles ou moins utiles quand on lit Jean-Paul Dubois, comment fonctionne un ascenseur, comment
entretenir
une piscine dans ce nouveau livre. Enfin, on a, sans parler évidemment des questions de mécanique auto ou moto-mobile. Ça fait aussi partie des plaisirs. Jean-Christophe Brianchon, un mot encore sur Jean-Paul Dubois et ce livre-là.
Moi, plus que, plus ou en tout cas en dehors des propos qu'on a pu avoir ou qu'on peut avoir sur Jean-Paul Dubois, c'est sur le Goncourt que je voulais revenir peut-être un petit peu, dans le sens où je voudrais simplement dire que je suis très content, moi, que le Goncourt enfin récompense un livre qui me semble devoir être lu par tous, ce qui est rarement le cas pour des raisons qui sont purement littéraires, là, en l'occurrence, j'ai le sentiment. Je peux pas prêter de grandes intentions au jury du Goncourt que je ne connais pas, mais malgré tout, on a toujours le sentiment, et c'est ce qui parfois transparaît des prix qui sont donnés, que le Goncourt est un prix politique, ou en tout cas, d'une certaine manière, même parfois, qui récompenserait une forme d'idéologie, ou quelque chose comme ça. Bon, là, rien de tout ça, que de la littérature, uniquement de la littérature, et ça fait du bien. On n'est pas là pour faire du chiffre, pour faire de la vente, on est là pour récompenser un livre, et c'est beau.
Ouais, ça, c'est la vision, c'est la vision romantique.
Une œuvre, on peut dire ça quand même, c'est-à-dire que le Goncourt fait ça de temps en temps et c'est pas illégitime. Dubois, c'est pas une découverte, ça fait longtemps qu'il a des lecteurs, il a déjà eu le prix Femina il y a 15 ans et tout ça. Et là, le Goncourt, du coup, récompense un écrivain qui a une œuvre derrière lui et c'est bien aussi qu'il le fasse de temps en temps.
Et une maison d'édition. Il faut quand même saluer le travail d'Olivier Cohen aux éditions de l'Olivier depuis un certain temps maintenant. Et donc, ce prix Goncourt, c'est quand même aussi une très belle façon de saluer le travail de cet éditeur qui, français ou étrangers, nous proposent quand même depuis des années et des années des livres dont on parle d'ailleurs souvent ici pour leur qualité. Raphaël Léris.
Mais oui, ils sont redescendus de leurs habituels prix Nobel. Ils ont une petite habitude des prix Nobel à l'Olivier, mais ils n'avaient jamais fait le Goncourt.
Mais ça n'a pas
le
même impact.
Et non, ça n'a pas
pour le
même impact.
Pour le lectorat français.
C'est pour la,
non, mais vous avez raison.
Le plaisir de la blague. Mais il y a un catalogue français qui est très beau avec, Geneviève Brisac, Agnès de Sarthe, dont je continue à pleurer le fait qu'elle n'ait pas eu le Goncourt l'année dernière, mais voilà, là ça me réconcilie un petit peu.
Puis avec des prises de risque, des découvertes aussi, pas seulement des auteurs déjà confirmés, mais aussi des nouveaux venus. Oui. Et puis en termes de traduction, en effet, là le catalogue est étourdissant. Et pour finir peut-être cette séquence, il y a celles et ceux qui aiment Jean-Paul Dubois et qui viennent de découvrir avec ce livre-là, peut-être un conseil d'un autre ouvrage de Jean-Paul Dubois. Grégoire, le ménager.
Jean-Paul Dubois est un excellent romancier. C'était aussi un génie du journalisme. Et ouais. L'Amérique m'inquiète, c'est un recueil des reportages qu'il a fait aux États-Unis. Bon, il se trouve que c'est pour mon journal, mais on s'en fiche, pour le Nouvel Obs.
Ça s'appelait autrement à l'époque.
Ça s'appelait le Nouvel Observateur. Et il vivait à Toulouse. Il allait aux États-Unis une fois de temps en temps. Il envoyait ses grands reportages. Et ces grands reportages qui ont été écrits dans les années 90 et au début des années 2000, non seulement sont toujours aussi délicieux à lire, mais ils se sont vraiment bonifiés avec les années. Et sous Trump, lire ces articles-là, c'est une radiographie de l'Amérique qui est extraordinaire.
Nous avons consacré
des prouesses stylistiques.
Une dispute à cette réédition chez l'Olivier, pour le coup.
C'est à l'Olivier. L'Amérique m'inquiète.
Parce qu'à l'époque, c'était Robert Laffont ou...
Oui,
c'était paru au début des années 2000 à l'Olivier, mais il l'avait mis dans leur collection Replay, je crois.
Ah d'accord, c'était déjà le premier éditeur, alors autant pour moi. En tout cas, il y a une réédition, effectivement, ce qui nous a permis d'en parler. Raphaël Léris, conseil.
Une vie française qui est quand même pour moi c'est un de ses plus beaux achèvements et puis qui nous parle à tous de nous, de notre pays. Enfin moi j'adore quand Dubois regarde au loin et part au Canada comme là c'est le cas, mais une vie française c'est quand même vraiment une très très belle réussite.
Jean-Christophe Briançon.
Bah, j'aurais bien parlé de l'Amérique m'inquiète parce que j'ai refeuilleté cet après-midi et j'ai trouvé ça.
On peut
aussi
picorer, en lire.
On peut lire comme ça par touche. Ouais. Mais sinon, un livre que j'aime beaucoup par son imperfection, parce que c'est ce que j'avais reproché dans la précédente émission, peut-être à ce livre-là, c'est sa perfection. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est vrai. Et c'est La Succession, qui est peut-être son dernier livre avant.
Le précédent. Absolument.
Qui pour une fois est un petit peu bancal, je trouve. Et ça me plaît.
Ah, moi, je le recommanderais volontiers, d'autant qu'il me semble qu'il s'y livre sans doute comme dans aucun autre, me semble-t-il, Jean-Paul Dubois. Et puis, pour dire aussi qu'on peut vraiment beaucoup, beaucoup rigoler, vous plaisantez Monsieur Tanner, ça reste un chef-d'œuvre de l'humour absurde, ne faites pas de travaux chez vous. C'est la morale de ce livre. Les poissons me regardent, pour dire que ça fait longtemps que je dis Jean-Paul Dubois aussi, parce que c'était le premier, c'était en 90, donc j'ai une faiblesse aussi pour ce livre. Bon, lisez tous les livres de Jean-Paul Dubois, et notamment « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », publié aux éditions de l'Olivier, qui a reçu le prix Goncourt 2019. Au suivant.
Le prix Renaudot 2019 a été attribué au deuxième tour de scrutin à Sylvain Tesson pour « La Panthère des Neiges » par 6 voix contre Abdourahmane Vaberi, qui a obtenu 2 voix, pour « Pourquoi tu danses quand tu marches ?» et 2 voix également à Jean-Luc Coatalem. Le prix de l'essai est allé à Éric Neuhoff pour « Très cher cinéma français » chez Albin Michel, et le prix Poche, une vieille histoire, nouvelle version de Jonathan Little chez Folio.
Alors, pour Éric Neuhoff, rendez-vous dans la dispute demain. si vous avez envie d'en parler, vous pouvez le faire. Mais pour le coup, un livre dont on n'avait pas parlé dans la dispute, c'est cette « Panthère des neiges » de Sylvain Tesson, publié chez Gallimard. Sylvain Tesson qui a précédemment reçu le prix Goncourt de la Nouvelle, c'était « Une vie à coucher dehors », le prix Médicis Essai pour « Dans les forêts de Sibérie », garçon qui écrit dans le Figaro Magazine, qui a été animateur sur Radio Courtoisie. L'aventure selon Tesson, c'est sa biographie que j'énonce ici. L'aventure est toujours très très virile. Et jusqu'à ce livre, elle était toujours très auto-centrée. Alors là, peut-être un pas de côté quand même, puisqu'il va suivre Vincent Munier. Enfin, il l'appelle Munier dans le livre, ce qui doit être aussi plus viril. Qui part au Tibet pour y débusquer une panthère des neiges. Vous rigolez, Jean-Christophe Briançon, votre premier regard sur ce livre.
Non, je rigole par effectivement la dimension un petit peu viriliste de l'ouvrage, comme souvent.
Un petit peu.
Chez Sylvain Tesson, peut-être risible, surtout quand vous en parlez.
Oui, bon, c'est une présentation un peu axée, d'accord.
Bon, il y avait d'autres livres dans la sélection. Non, qui
on parle de la Panthère des Neiges.
Mais alors, si on veut parler de la Panthère des Neiges, contrairement à ce que vous dites, c'est un livre qui est particulièrement auto-centré, je trouve, puisque Sylvain Tesson en profite pour nous parler à peu près dans chacun des chapitres qui constituent le livre de sa mère disparue.
Mais il y a un autre personnage, ce qui est plutôt rare.
Mais il y a un autre personnage, effectivement. Bon, alors voilà, Sylvain Tesson part cette fois-ci à la recherche de la Panthère des Neiges, dans un endroit qu'on ne sait pas, dont on ne sait exactement où il est, puisque le mystère doit être gardé pour que les chasseurs ne viennent pas la déranger. Voilà, c'est l'occasion pour lui de nous amener dans des phrases particulièrement alambiquées, grandiloquente dans les confins de cette Asie qu'on ne connaît pas tous. C'est à peu près la même chose que les précédents ouvrages, hein. Je trouve pas grand chose de neuf à en dire. Je suis toujours sceptique de la littérature de Sylvain Tesson, d'autant plus sceptique que je trouve par ailleurs que c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine forme de poésie et d'intelligence que je ne retrouve jamais dans ses livres.
Oui, ça avance par courts chapitres et longues phrases. Raphaël Léris.
Alors moi, je suis très cliente des longues phrases. A priori, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait les longues phrases
moi
en soi. Par exemple, j'adore les longues phrases d'Olivier Rollin, qui était dans la sélection du concours.
Dans le genre viriliste, bien aussi, lui, Olivier Rollin.
Ah, mais j'ai beaucoup plus de phrases pour Olivier Rollin. Mais dans pas un, le même dans genre. Un genre viriliste beaucoup avec plus séduisant, pardon. Hein, mais...
Et séducteur, d'ailleurs.
Ouais.
Mais donc, pour en revenir à Tesson, moi, je peux reconnaître la beauté de sa phrase, le fait qu'il aille chercher des mots vraiment très, très compliqués, des imparfaits du subjonctif, des passés simples, oulala, des nous à l'âme et tout ça. Moi, la littérature de l'aphorisme, ça me fatigue, c'est très daté. Je vois bien le charme hussard de la chose, mais j'y suis vraiment très, très imperméable. Bon, apparemment, ça marche, et donc on récompense ce qui marche, parce que ce qui marche, marchera, et que c'est vraiment super, les choses qui marchent. Je trouve que c'est... Voilà, après, c'est beau de dire que la nature est belle, et qui suis-je pour dire que le Tibet n'est pas somptueux? Il y a des descriptions très belles. Après,
ça ne vous bouleverse pas comme lectrice.
Ça ne me bouleverse pas comme lectrice. Il n'a pas besoin du Renaudot. D'ailleurs, le Renaudot ne l'avait pas mis dans sa sélection.
Mais ils aiment bien faire ça.
Ils aiment beaucoup faire ça.
Entre autres facéties.
Entre autres facéties, parce qu'ils ont quand même un respect des gens qu'ils mettent dans les premières sélections qui, moi, me laissent pantoise. C'est quand même très sympa pour les gens qui les calent, les cinq personnes qui attendaient les résultats. Je trouve ça assez étonnant. Et puis voilà, donc idéologiquement, il y a une espèce de cohérence du palmarès final de ce Renaudot.
Cette saison, parce que rappelons que c'était Valérie Manteau, Le Sillon, l'année passée. Oui. Enfin, on est quand même aux justement, antipodes.
Ah ben on va payer ma Valérie Manteau. Quoi.
C'est ça, donc pendant 10 ans, il va y avoir des prix qui vont compenser Valérie Manteau. Ouvrage remarquable, à mon sens.
Magnifique.
Grégoire Leménager, sur ce livre de Sylvain Tesson.
Oui, mais c'est vrai qu'on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est l'anti-Jean-Paul Dubois, c'est-à-dire que Jean-Paul Dubois, il y a une forme d'humanisme et de douceur en permanence, et une forme d'humilité, de modestie, qui est aussi formelle, enfin, d'un point de vue littéraire. C'est vrai que chez Tesson, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très autosuffisant et de très suffisant aussi dans son ton, qui se télescope avec les grandes leçons d'humilité qu'il professe tout au long du livre. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu gênant, qui a toujours été un peu gênant chez lui, et qui là explose, fait vraiment la limite de Sylvain. Moi, je trouve ça très dommage. Je pense que ce garçon, il a un talent stylistique fou. Il abuse des aphorismes, c'est vrai. Là, il a tendance à s'en moquer un peu de sa propre tendance. Voilà, il y a des effets de mise à distance quand même de ses propres manies. Ça pourrait aller un peu plus loin, mais il y en a un peu. On a l'impression qu'il y a une prise de conscience, mais il y cède quand même. Après, il y a des descriptions qui sont magnifiques. Moi, je trouve qu'il a un sens de l'image très fort. Et le problème, c'est quand il fait de l'idéologie, quoi. Parce que son idéologie, elle est assez basique, assez, elle est pleine de contradictions qu'il n'explore pas du tout. Enfin, il peut pas à la fois déplorer que le progrès permette aux hommes de se promener aux quatre coins du monde et de derrière la planète, alors que lui-même en a fait son fonds de commerce depuis 30 ans. Il peut pas, ou alors il faut qu'il fasse son autocritique à un moment. Enfin, il y a des contradictions comme ça qu'il affronte jamais. Et ça c'est dommage, c'est gênant, quoi. Sur son documentaire animalier, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien qu'il fasse du documentaire animalier. Je trouve ça très bien qu'il rappelle que les hommes ont bousillé plein de choses. Après, quand ça bascule dans un anti-humanisme qui va quand même très très loin. C'est-à-dire que quand il faisait l'apologie de la France profonde dans Les Chemins Noirs, c'est un livre que je trouvais absolument stupide, c'était pour nous dire qu'au Moyen-Âge c'était beaucoup mieux. Là, il remonte bien en amont du Moyen-Âge. C'est-à-dire que là, ce qui était mieux, c'était le paléolithique, quoi. C'était même encore avant, quand il n'y avait pas d'homme. Donc, quelle est sa place à lui là-dedans? Dans quelle mesure il s'inclut, il s'exclut de l'humanité? C'est pas très clair, quoi. Et ça, c'est un peu gênant. Et à l'arrivée, moi, je trouve que sur le fond, c'est le discours, c'est le discours de Brigitte Bardot, quoi. Ouais. Alors, c'est réécrit par un disciple de Paul Morand, mais c'est quand même ce discours-là. Alors, il a ses côtés sympathiques, parce que c'est vrai que les animaux, ça serait bien de les respecter un peu plus. Et il a aussi pas mal de limites. Ouais. Et donc je trouve ça très naïf, finalement, très adolescent et pas modeste, quoi. C'est dommage quand il son temps à dire aux hommes qu'ils devraient être plus modestes, et lui-même ne l'est pas du tout. Donc son discours est inaudible.
Jean-Christophe Briançon.
Oui, mais plus que d'idéologie, je pense qu'il faut parler de posture, ce qui permettrait d'éventuellement l'excuser. Puisque je ne suis pas sûr que la pensée qu'il nous développe, entre autres dans cet ouvrage, puisse être considérée comme pensée, comme un point de vue stable et réel sur le monde, quoi. C'est avant tout une posture d'un homme qui veut s'intégrer dans une certaine littérature, effectivement, qui se référence beaucoup aux Hussards, à tout ce groupe littéraire du siècle dernier. Bon, il veut s'inscrire dedans, il nous le montre, nous le démontre, avec toutefois de temps en temps une prise de recul non seulement idéologique quant à sa propre idéologie ou posture, mais aussi par le biais de l'humour. Il y a des instants où honnêtement il est parvenu à me faire rire en riant lui-même de sa posture. Les chutes de chapitres sont en particulier parfois assez riantes. Bon, je pense pas qu'on peut éviter effectivement le mettre du côté des écrivains réactionnaires ou conservateurs, peut-être, mais pas tant que ça, dans la mesure où je suis pas certain que sa pensée soit si élaborée que ça et si et qu'il en soit si certain.
Peut-être juste pour conclure, là, on a un échantillon de critiques peut-être non représentatif, parce que vous l'avez dit, hein, Sylvain Tesson, ça marche, ça plaît, il est quand même très présent dans l'univers médiatique, ses livres se vendent, me semble-t-il. Qu'est-ce qui plaît, pourquoi ça marche, comme dirait la rubrique d'un autre journal du matin, Raphaël Léris?
Il a un discours de ce que une écologie de droite qui prend une place idéologique importante. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit tout seul sur ce créneau. Je crois que Le Figaro Magazine marche très bien sur ce terrain-là, et que par ailleurs aussi, je veux très très volontiers croire que d'abord les gens le trouvent malin, aiment bien le côté aventurier du garçon, ouais. Aiment bien quand il parle d'Homère à la radio, parce que c'est sympathique, tout le monde aime bien Homère, il fait ça très bien, il a un vrai talent de passeur, et que c'est une figure médiatique dont on rappelle pas si souvent que ça, qu'il a eu cette chronique de quelques années dans le Radio Courtoisie, vraiment d'une belle période bien hardcore de ce média. Et donc, en plus, l'aventure lui permet de passer pour un espèce d'outlaw, un garçon qui vit sa vie de son côté, un aventurier. Donc on est plutôt du côté de Nicolas Bouvier que de Jenny Bastier, alors que pas tellement.
Ah non, mais c'est vrai, il joue cette carte-là beaucoup, du type qui est détaché de la politique, quoi. Et en fait, il en fait tout le temps. Oui. Et c'est le Zarathoustra du Figaro Magazine, quoi. Il est dans une posture d'imprécateur comme ça, et chaque fois qu'il peut décocher une, là, il y a deux trois blagues un peu nulles sur Macron, sur l'idée d'être en marche et tout ça. Ça n'a rien à faire dans le livre sur la Panthère des Neiges, mais il peut pas s'en empêcher, quoi. Et c'est dommage. Il gâche son talent. Moi, je pense qu'il avait un talent, ce garçon.
Les parenthèses sur la modernité, il peut pas s'empêcher de modernité, entre parenthèses, c'est-à-dire la tristesse. Ça n'a pas de sens. Et puis par ailleurs, ça commence quand même par une blague sur nuit et brouillard, qui c'est quand même la première page. Je voudrais quand même rappeler ça. On est détendu avec la blague, quand même.
Ouais, c'est sûr. Bon, voilà ce que nous pouvions dire ce soir de La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson, publié chez Gallimard, prix Renaudot 2019. Et comme je le disais tout à l'heure, on parlera nous du Renaudot essai. Demain dans la dispute décernée à très cher cinéma français d'Éric Neuhoff. Moi, ça m'a frappé que ce prix arrive deux jours après la prise de parole d'Adèle Haenel. Et quand on lit les propos, je dirais pas le propos, mais les propos d'Éric Neuhoff, notamment sur les femmes, je pense que c'est pas inintéressant de parler de ce contexte actuel dans lequel nous vivons. Bon, ce soir, on continue à parler de prix littéraire, à suivre le prix Femina et le Grand Prix de l'Académie française.
France Culture, La Dispute, Arnaud Laporte.
Avec juste une petite embardée, si je puis dire, parce qu'on a appris hier la mort de l'écrivain américain Ernest J. Gaines, qui n'est pas l'écrivain américain le plus connu sous nos latitudes, mais je pense que c'était important de saluer cette disparition, de lui rendre hommage. Il est mort en Louisiane, c'était où il était né, où il a situé tous ses romans. Il avait 86 ans. Son roman le plus connu en France reste d'Hitler que je suis un homme, qui est publié chez Liana Levy. C'est une traduction de Michel Herb Voslinski. C'était l'historien, on va dire, des Afro-Américains du sud des États-Unis. Historien au sens où il racontait leurs histoires, qui était évidemment aussi son histoire, et dire aussi que cette transmission se poursuivra, puisqu'il y a un Ernest J. Gaines Center dans l'université de Louisiane où on peut aller étudier, qu'on soit chercheur, étudiant, et étudier ses manuscrits, ses documents de travail, pour pouvoir là aussi continuer à faire exister cette mémoire et cette histoire, et peut-être même d'ailleurs la faire découvrir au plus grand nombre. Voilà, je voulais juste faire un petit passage pour saluer ce grand écrivain. Bon, suite de cette dispute, avec un autre livre primé dont on a déjà parlé ici. Là, on aura beaucoup de qualificatifs extatiques de Grégoire Le Ménager, puisqu'il était déjà là le 29 août dernier pour parler de Par les routes de Sylvain Prudhomme à l'Arbalète, couronné par le prix Femina, un roman qui interroge, on va dire, la sédentarité et le nomadisme à travers deux personnages. On a Sacha,
qui décide de s'installer dans une nouvelle ville, de se poser, quoi. Et puis un ancien ami, qui est toujours désigné dans le livre par ce terme de l'autostoppeur, donc, comme on a compris, lui ne cesse d'arpenter tous les territoires. Alors, comme vous étiez déjà là, Grégoire, mais pas vos camarades, on va commencer par vos camarades du soir. Raphaël Léris, sur « Par les routes » de Sylvain Prudhomme.
C'est un livre d'une grâce folle à mes yeux, qui fait, dans lequel donc le narrateur Sacha s'est délesté de la plupart de ses possessions avant de s'installer à V. Il n'a pas grand chose avec lui. Il dit on voit mieux avec du peu. Et l'écriture de Prudhomme là, je trouve correspond très très bien à ça. C'est-à-dire, c'est un écrivain moi qui m'intéresse beaucoup, Sylvain Prudhomme. J'avais adoré Lady Bailly, Légendes. Et là, il a délesté sa phrase de ses effets les plus évidents, les plus visibles. Il est dans la simplicité et ça nourrit la force de ce texte qui est vraiment vraiment très beau.
Jean-Christophe Briançon.
Je suis assez d'accord sur la forme, sur le style de Sylvain Prudhomme qui, pour moi, a trouvé ici peut-être son point d'ancrage, si ce n'est définitif, en tout cas un endroit où il devait être, effectivement par l'allègement, par une phrase très simple. D'une certaine manière, on peut le rapprocher de Jean-Paul Dubois dans la simplicité de son phrasé et la finesse de son approche sentimentale. C'est assez comparable. En revanche, je pense que le fond de son histoire, de ce qu'il nous raconte, est pour moi assez anecdotique. C'est une histoire doucement nostalgique et assez jolie, mais pas fondamentalement importante. Je pense qu'il a écrit des choses plus intéressantes, y compris dans le reportage, ce qu'il avait pu faire entre autres, moi qui m'avait beaucoup plu sur les coiffeurs de Château d'Eau, qui m'avait très beaucoup intéressé.
Les coiffeurs de Château d'Eau ne sont pas des gens qui coiffent des châteaux d'eau, mais c'est
Château d'Eau qui est
un quartier qui exerce dans le quartier Château d'Eau à Paris.
Voilà, qui
non, parce que ça pourrait être un métier de Jean-Paul Dubois, ça, coiffeur de Château d'Eau.
Effectivement. Non, là, on était dans le réel. C'était pour moi un peu plus intéressant. Ici, là, il y a quelque chose de l'ordre du fantasmatique, quoi, dans ce rapport au mouvement, dans le rapport à l'autre aussi, dans le rapport que les deux personnages entretiennent, qui est fantasmatique dans la mesure où c'est de manière différente, mais comparable peut-être. C'est de l'ordre de la posture, là aussi, comme Sylvain Tesson. Il y a quelque chose qui nous met à un endroit. Bon, il a envie de nous montrer le déplacement et le rapport à l'autre de cette façon-là. Alors, ça donne quelque chose de très joli, mais pas forcément de très important, selon moi.
Bon, je vais être encore en désaccord avec vous, mon cher Jean-Christophe Briançon, puisque je crois que ce qui paraît anecdotique est essentiel, évidemment, puisque qu'est-ce que c'est que ces non-lieux, hein, on en a beaucoup parlé, mais ces zones décrites comme ça, de périurbaines que traverse l'autostoppeur, qu'il nous raconte, et puis chercher la femme quand même. Il y a quand même, c'est quand même une histoire d'un triangle. C'est surtout l'histoire d'un triangle peut-être, mais le triangle des Bermudes qu'est la France aussi, qu'est cette France périurbaine, enfin dans laquelle il y a quand même des descriptions, pour le coup. Alors là, on n'est pas au Tibet à chercher une panthère, mais on est plutôt au rond-point à chercher le mammouth, mais ça n'existe plus, donc je peux le citer. ça vient comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mais je l'ai dit, le plus grand laudateur de Sylvain, c'est son nom, de Sylvain Prudhomme, il s'appelle Sylvain, si vous voulez. C'est Grégoire Le Ménager. Vous pouvez repousser ces grands cris du cœur. Le 29 août, vous avez quasiment dit c'est le plus grand livre de l'année. Hein.
Bon, là, je n'ai pas dit que c'était le plus grand. C'était, pour moi, c'est vraiment un des plus beaux. Ouais. Vraiment. J'ai vraiment trouvé très lumineux, très, très, très épuré, très, très. Je trouve qu'il n'y a pas un mot de trop, que son refus d'utiliser des ponctuations fortes, ça pourrait être d'un maniérisme insupportable. Il n'y a pas de point d'interrogation, il n'y a pas de point d'exclamation, et en fait, ça passe absolument tout seul. Enfin, voilà. Non, écoutez, j'ai dit que Tesson, c'était l'anti Jean-Paul Dubois. Donc là, je ne vais pas dire que Prudhomme est l'anti Tesson, mais il y a quand même un peu de ça. C'est-à-dire que, et en particulier, si on fait le parallèle entre les histoires de cet autostoppeur qui parcourt la France et le précédent livre de Sylvain Tesson qui s'appelait Les Chemins Noirs, on voit bien tout ce qui oppose ces deux Sylvains. Oui. C'est-à-dire que là, il y a l'approche d'une France un peu telle qu'elle est, c'est-à-dire enracinée dans un passé très fort, avec des paysages majestueux, mais contaminée par de la modernité, par des trucs moches, par tout ça. Et donc il y a l'acceptation de ça. Il y a quelque chose de très dépassionné de ce point de vue, je trouve, dans le livre, qui le rend très beau. Après, c'est un très beau livre. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, Jean-Christophe Briançon, là, parce que vraiment, avec juste trois personnages comme ça, il touche effectivement à quelque chose de très essentiel. Enfin, je trouve que c'est un très très beau livre. Peut-être sur la crise de la quarantaine, mais pas seulement, sur la question du bonheur, quoi. C'est une question qu'il pose assez tôt dans le livre. Est-ce que le bonheur, c'est de partir ou est-ce que c'est de rester? On peut difficilement utiliser des mots plus simples. Et d'une certaine manière, au moment où on le lit, on se dit, bah oui, effectivement, ça peut se formuler comme ça, la question. Est-ce que le bonheur, on le trouve en remettant en jeu tout le temps sa liberté, en repartant sur les routes, comme le fait l'autostoppeur, ou est-ce qu'on le fait en consentant à renoncer à pas mal de choses pour développer, pour renforcer ce qu'on a sur place, une fois qu'on l'a trouvé, et tout ça. Et je trouve que tout ce jeu-là, il l'incarne très très bien dans ces trois personnages, et ça... Ouais, ça. Bon, alors je peux même ressortir, si vous voulez, ma comparaison préférée, qui est de dire que ce livre est beau comme une chanson de Leonard Cohen, mais parce qu'il y a une chanson de Cohen qui est citée à la fin du livre, qui est la plus belle chanson du monde, qui est Famous Blue Raincoat, et qui est une histoire de triangle amoureux aussi. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vraiment une esthétique de songwriter qui est avec toute la dimension de parabole que ça peut avoir. Il nous raconte une histoire, trois personnages, et puis à travers ça, il pose plein de questions sur le sens de la vie, de manière très sensible.
Ça me semble, parce que j'ai aussi pensé à un chanteur, mais pas du tout le même, et pas du tout aussi grand. J'ai eu l'impression de lire une longue chanson de Vincent Delerme, parfois. Ce qui n'est pas du tout une critique venant de moi, parce que j'étais à son concert hier soir et je l'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est pas une critique, mais pour autant, ça démontre que, pour moi, il pose des questions qui sont importantes et il les pose bien, mais ses personnages et ses histoires, après, manque d'ampleur pour leur donner chair à ces questions. Et ce qui n'empêche en rien à ces questions d'être, en plus d'être importantes, d'être belles.
Raphaël Néris.
Moi, ce que je trouve assez fort dans ce texte, c'est que le calme avec lequel il pose ses personnages, avec lequel il écrit ses phrases, réussit à créer une tension qui donne à ce livre quelque chose d'un suspense qu'on n'attend pas forcément d'une histoire de triangle glamoureux au fin fond d'une province pas déterminée, avec des gens qui ont des métiers qui les suroccupent pas non plus. Et cette tension-là qui existe juste par le calme et la manière dont il écrit, pour moi, est une vraie belle réussite.
Belle réussite. Site couronné par ce prix Femina 2019 pour parler route de Sylvain Prudhomme à l'Arbalète. Je voulais quand même évoquer le Femina étranger, je ne vous en ai pas prévenu, mais est-ce que quelqu'un ici a lu Manuel Villas Ordessa qui a été couronné?
Non, alors j'ai lu le Femina Essai pour un livre que j'avais recommandé ici.
Absolument, j'allais y venir.
Sur Jean Giono, qui est formidable.
Giono Furioso, Emmanuel Lambert,
c'est un excellent livre sur Giono et au-delà sur la littérature.
Non, mais Stock. Du coup, on y reviendra pas. Mais Manuel Villas, édition du Sous-sol, traduction de l'espagnol par Isabelle Gugnon. Moi, je n'ai donc pas lu ce livre comme vous, mais ça me réjouit pour cette bonne maison d'édition qui a aussi un très beau catalogue. Donc là, c'est quand même une belle visibilité. Dire aussi que, alors, le Femina étranger pour l'ensemble de son œuvre, c'est une nouveauté ou ça m'avait échappé jusque-là? C'est Edna O'Brien.
Ça permet de donner un prix à cette très grande écrivaine en étant passé à côté de chacun de ses romans.
Oui, non, c'est ça l'idée.
Petit rattrapage final, alors que l'auteur est octogénaire.
Quand je l'ai vu dans la liste, je me suis dit, bon, c'est pour elle. Je suis ravi pour M. Manuel Villas, que je ne connais pas, mais bon, Edna O'Brien, prix Femina pour étranger pour l'ensemble de son œuvre. Et on peut la réécouter dans l'entretien qu'elle a donné à Marie Richeux dans Par les temps qui courent. On en va sur le site de France Culture et on podcaste ça, on l'écoute, on le réécoute. Bon, il faut qu'on
progresse. Un livre, par ailleurs, Girl.
Vous mais extraordinaire. Parlé dans la dispute magnifique. Extraordinaire, Girl. Oui, pour rappeler. Ça, pour moi, il avait déjà gagné le prix. Avant que.
Sur Boko Haram, enfin sur les victimes de Boko Haram.
Oui. Et non, c'est un livre d'une puissance folle. Mais Manuel Villas, j'y reviens, le programme dans une prochaine dispute. Je ne sais pas si je vous appellerai vous, ce sera d'autres personnes. Vous n'avez pas l'air partant.
Ça fait plusieurs mois que j'en entends parler comme étant un chef-d'œuvre, donc j'ai très envie de le lire. J'ai juste pas eu le temps, mais j'ai très envie.
Au programme prochainement.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier prix dont nous allons parler ce soir. Alors, il faut dire que d'habitude, le calendrier est différent, puisque quand on fait cette émission, le Médicis a déjà été attribué. Pas cette année, puisque ce sera demain qu'ils dévoileront leur lauréat. Rappelons l'an dernier, c'était quand même Pierre Guyotat, français, et Rachel Kushner en Médicis étranger, et puis Stefano Massini pour les essais. Donc c'était quand même un beau tiercé, enfin très étonnant pour Guyotat. Cette année, il reste en lice Santiago Amigorena, Brigitte Giraud, Claudie Huizinger, qui a eu aujourd'hui le prix décembre. Il reste Victor Gestin, premier roman, et Luc Lang, pas le premier roman. Guillaume Lavenant, premier roman aussi, Protocole gouvernante chez Rivage. Vincent Message au Seuil. Christine Montalbetti chez POL, et côté roman étranger, Joyce Carol Oates. Et Edna O'Brien, donc, est dispensée puisqu'elle a eu ou pas. Ça, je ne sais pas comment ça marche. Manuel Villa, c'est également dans la liste des étrangers. Vous avez un chouchou pour le prix Médicis demain, pour ce que je viens de dire ?
Protocole gouvernante, personnellement.
C'est vrai ?
Oui.
J'ai envie de le programmer dans l'émission depuis la rentrée, on ne l'a toujours pas fait. Guillaume Lavenant, chez Rivage.
Très intéressant.
Premier roman.
Formellement, c'est une tentative qui est assez intéressante. Après, c'est un peu bancal, comme un premier roman parfois, mais c'est vraiment très intéressant.
Raphaël Léry, c'est un chouchou, si vous vous rappelez de tous les noms que je viens de citer.
Christine Montalbetti est une auteure que j'écoute particulièrement.
Je vous suis sur ce chemin, Grégoire Le Ménager.
Moi, j'aime bien le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, dont on avait parlé ici. Je trouve un livre très, 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 très bien équilibré, très, très touchant, très, pas trop long en plus.
Ah, voilà les critères. Voilà les critères. Alors, c'est pas le cas de Civilisation.
Non, c'est un livre qui est resserré et qui va à l'essentiel aussi, ce qui est bien.
C'est pas le cas de Civilisation d'être resserré. Le livre de Laurent Binet, puisque le dernier prix dont on parle ce soir, qui ouvre chronologiquement la saison des prix d'automne, c'est le grand prix du roman de l'Académie française, décerné donc à Civilisation, avec un Z à Civilisation. Cherchez où. De Laurent Binet, publié chez Grasset. Livre. Lui non plus, pas encore traité dans cette émission. Petite séance de rattrapage dans ce livre. Binet propose une uchronie dans laquelle, au XVIe siècle, ce ne sont pas les Européens qui découvrent, avec beaucoup de guillemets, évidemment, l'Amérique, mais les Incas qui vont conquérir l'Europe. Est-ce que vous avez bien fait vos devoirs, Jean-Christophe Brianchon, sur Civilisation?
C'est un livre qui ne pouvait avoir, selon moi, d'autre prix que celui-là, puisque c'est un livre dont la qualité principale est d'être écrite par quelqu'un qui sait écrire, qui connaît la langue française. Donc voilà, on peut lui reconnaître ça, d'être un livre bien écrit, avec tout ce que ça comporte comme problème aussi. Du coup, c'est que c'est un livre que j'ai trouvé personnellement assez ennuyeux, assez fastidieux. Et pourtant, le parti pris de départ est très...
Je
m'attendais à quelque chose
Zuchronie,
de très
excitant
et de peut-être très drôle aussi, puisque Laurent Binet sait l'être. Ici, point d'humour, ou en tout cas, pas de ceux qui me font rire.
Ça ne vous a pas fait éclater de rire, là.
Non, ça ne m'a pas fait éclater de rire. Et voilà, au-delà de ce point de départ, je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai bizarrement, parce que le livre est constitué de quatre parties, me semble-t-il, si je me souviens bien. La partie centrale qui est à proprement parler, celle qui traite de ce point de départ, de l'inversement de l'histoire.
L'inversement des conquêtes.
Voilà, l'inversement des conquêtes. Cette partie centrale m'a semblé fastidieuse. Inversement, les trois autres, donc les deux premières et la dernière, m'ont semblé bien plus intéressantes. Il y a un carnet de Christophe Colomb, et puis le récit quotidien d'une européenne du Nord, je sais pas ce que je dis veut dire grand chose, mais en tout cas d'une viking, on dira. Voilà, ces parties-là, je les ai trouvées assez stimulantes, assez intéressantes, assez sèches, bien construites, et puis ensuite ça, voilà, au-delà du parti pris, plus grand chose d'autre que le maniement de la langue qui est effectivement assez impeccable. Donc un prix de l'Académie, c'est voilà, je sais pas si ça s'imposait, mais en tout cas on le comprend.
Grégoire Le Ménager sur Civilisation de Laurent Binet.
C'est vrai que c'est un roman qui est difficile, qui est plus difficile que les autres livres de Binet. Moi, je trouve l'idée de départ absolument géniale. Je trouve que cette manière de pratiquer ce qu'on appelle de l'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire on dit « et si », on modifie une hypothèse de départ dans l'histoire, et après, toute la suite est modifiée. Et là, donc, c'est « et si les Indiens avaient eu le fer, le cheval et des anticorps, qu'est-ce qui se serait passé ?» Et effectivement, sans doute que 200 Européens débarqués par hasard sur ce continent immense se serait fait bouffer par les Indiens et n'aurait jamais réussi à les exterminer de cette manière et à pratiquer et à conquérir l'Amérique. Donc ça c'est très intéressant. Et puis le renversement est assez fascinant, c'est-à-dire que vraiment il y a un jeu de construction intellectuelle et un jeu d'érudition qui est déployé là, qui est phénoménal de la part de Binet, parce que il nous raconte comment il serait possible que des Incas, donc une poignée d'Incas, 200, aient réussi à conquérir l'Europe, une Europe à feu et à sang à cause des guerres de religion au XVIe siècle. Pour ça, il s'est documenté, il a bossé sur l'histoire du XVIe d'une manière qui est dingue. Mais peut-être qu'il a trop travaillé d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est vrai que, je pense que pour quelqu'un qui est passionné par l'histoire, par la question de la causalité en histoire, et peut-être en particulier par la causalité dans l'histoire du XVIe siècle, je pense que ce livre est très drôle, très intéressant, très stimulant. C'est vrai qu'après, d'un point de vue romanesque, ça prend moyennement. Et il n'y a pas la dinguerie qu'il y avait dans la septième fonction du langage.
Livre précédent de Laurent Binet.
Pour le coup, Binet manipulait une érudition
dont il faisait quelque chose.
Oui, mais c'est une érudition qui c'est des choses sur lesquelles il avait lui-même travaillé comme étudiant, qu'il avait lui-même enseigné comme prof. Enfin, il était nourri de ça depuis très très longtemps.
Mais c'était digéré.
Là, peut-être que c'est un peu moins digéré. Et du coup, il est presque trop prudent. Et on a l'impression qu'il essaye à chaque fois qu'il fait bouger un pion, il a la hantise que ça vienne. Enfin, il essaie de rendre crédible tout ce qu'il raconte en utilisant un savoir historique. Et c'est vrai que ça crée des effets de dépression dans le récit. Il y a des passages qui sont formidables. Le carnet de Colomb, moi, je le trouve vraiment formidable. Il y a des passages où le récit s'emballe et où ça fonctionne bien. Il y a des passages où ça retombe un peu où c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est quand même un exercice intellectuel, stylistique, assez fascinant. Le lire au premier degré, c'est compliqué. Mais...
Raphaël Léris, votre sentiment sur Laurent Binet ?
Eh bien, pense sur les doigts et le bec, contrairement à Laurent Binet qui a trop travaillé. Moi, je n'ai pas eu le temps de le reprendre.
Oui, non, mais ça, je vous l'ai demandé, je crois, hier seulement, ou en me disant, finalement, comme il n'y a pas le Médicis, il faudrait peut-être qu'on rattrape ça. Mais vous avez parcouru ?
Je l'ai parcouru en juin.
Ah oui, d'accord. Mémoire ancienne, il ne vous a pas accompagné depuis.
Il ne m'a pas accompagné depuis. Mais oui, c'est les joies des journaux où ça n'est pas soi qui traite tel ou tel livre. Et j'avais tellement aimé la septième fonction du langage.
Mais est-ce qu'il nous donne envie de le lire ?
Non, mais moyennement. Et le papier passionnant de mon camarade Jean Birnbaum ne m'avait pas non plus tout à fait convaincu de la réussite romanesque de cet ouvrage.
Bon. Laurent Binet, Civilisation. Oui, on a un petit peu de temps. Mais j'ai des questions bonus. Non, je vous ai demandé votre favori pour le... Ça, c'est fait. Puisqu'on parle de prix, et je ne sais plus qui l'a évoqué, vous, je crois, on n'a pas parlé ici des Nobel de littérature.
Ah ! Ça alors !
Très vaguement évoqué. Parce qu'en plus, le fait qu'il y ait une attribution de deux prix, pour des histoires, on va pas refaire le feuilleton là de l'Académie Nobel, parce que ce serait aussi, c'est dans l'actualité, on pourrait dire aussi. Mais l'attribution à Peter Handke, dont on peut parler, on a quelques minutes, mais a quand même, il me semble-t-il, beaucoup éclipsé le prix d'Olga Tokarczuk. Je ne sais pas si on souk, je ne sais pas comment on doit le dire. Encore un homme qui cache une femme, bon, là je suis un peu du mauvais esprit, mais c'est vrai que du coup, la lumière n'a pas quand même été beaucoup sur elle, non ? Ne trouvez-vous pas, Raphaël Léris ?
Ah oui, et puis il faut vraiment le déplorer. Enfin, Peter Handke est un très grand écrivain avec des options politiques plus contestables, disons, pour le moins. Olga Tokarczuk est un très grand écrivain avec des options politiques impeccables. Donc c'est quand même la grande injustice de cette affaire, hein, c'est qu'elle passe à l'as. C'est peut-être qu'elle est le prix de 2018, là, de l'année dernière, qui n'intéresse plus personne. Et quel dommage, puisque quelle œuvre complexe et en même temps brillantissime, romanesque en diable, érudité accessible, le livre de Jacob, c'est magnifique. Elle passe en France, je crois, pour aller à Saint-Nazaire, pour recevoir, ou qu'il lui avait décerné un prix en juin, la Maison des écrivains de Saint-Nazaire, dirigée par Patrick Deville. Donc elle sera en France en fin novembre.
Et traducteur.
Des écrivains et traducteurs de Saint-Nazaire. Donc elle passera en France fin novembre et j'espère que ça sera aussi l'occasion de l'entendre et de redonner une chance voilà, d'avoir accès à cette auteure merveilleuse, publiée aux éditions Noir sur Blanc. Donc,
aussi une belle maison.
Très belle maison. Et ce qui est intéressant, c'est que l'édition Noir sur Blanc appartient à Vera Michalski, qui est aussi son éditrice polonaise.
Ouais, très bien. Mais je ne doute pas que, passant par la France, elle s'arrête dans des studios de France Culture.
Hein,
franchement, je doute assez peu de la propos de mes camarades à ce sujet, comme en tout sujet, bien sûr. Jean-Christophe Bouillanchamp,
je fais certainement partie de ceux qui ont participé au fait qu'elle soit éclipsée, puisque ne la connaissant pas, je n'ai jamais pu en parler. Enfin, ne connaissant pas son œuvre, en tout cas. Et je pense que voilà, ça a dû être le cas de pas mal de gens qui se sont retrouvés à devoir commenter ses prix. Et connaissant tous Peter Handke, on s'est précipité sur lui. Ça ne m'a en tout cas pas empêché non seulement d'être contente de pouvoir découvrir l'œuvre de cette femme, mais en-delà de ça, de me réjouir de l'attribution du prix à Peter Handke, puisque malgré ses positions politiques dont vous parliez, c'est un des auteurs que je chéris et que j'admire le plus au monde. Donc j'ai été très 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 heureux qu'il l'ait enfin.
Grégoire Leménager.
Alors, je n'ai pas lu cette romancière polonaise qui a l'air effectivement formidable d'après tout ce qu'on m'en a dit. J'aimerais bien la trouver le temps un jour, mais la vie est courte et ses livres sont volumineux. Et quant à Peter Handke, non, je ne sais pas, j'ai pas d'avis à proprement parler. Ce que j'observe avec un peu d'étonnement, alors peut-être que je me trompe, j'ai l'impression quand même que l'Académie Nobel a toujours récompensé des auteurs qui sont de manière assez évidente dans le camp du bien, disons. Et là, a eu l'audace, le culot, l'indécence, selon les points de vue, d'aller récompenser un auteur qui, aux yeux de certains, peut être qualifié de fasciste, quoi. Il me semble que c'est une première. Je ne dis pas que c'est un fasciste, je me prononce pas là-dessus, c'est pas la question, mais je trouve que comme réorientation du Nobel qui essaye de redémarrer sur d'autres bases, etc.
Bah c'est drôle de base, non?
Oui, historiquement, je me demande s'il n'y a pas une sorte de tournant, quoi. Enfin, je sais pas en quelle mesure c'était délibéré, conscient, maîtrisé, je sais pas.
Je voudrais quand même rappeler que dans les attendus même du Nobel de littérature, la décision d'Alfred Nobel, enfin ce qu'il a laissé, c'est qu'il faut que ça récompense une œuvre qui s'appuie sur une pensée politique, sur un souffle politique. Enfin, c'est du camp du bien. Et d'ailleurs, on pourrait regarder de plus près le début du XXe siècle n'a pas été particulièrement dans le camp du bien, du côté des récipiendaires du prix. Là, en l'occurrence, ce sont les sous d'Alfred Nobel qui sont donnés, et ça fait partie du plan en théorie de ne pas récompenser des thuriféraires de régimes génocidaires, pour le dire poliment.
Alors, ils se sont dit qu'en donnant un coup ça passerait, peut-être, qu'il y avait une sorte d'équilibre qui allait se faire.
Non, c'est vraiment mystérieux. Ouais.
Bon, mystère, mais nous lirons.
Mais après, on a le droit de considérer aussi que la littérature prime sur l'idéologie et qu'on récompense un écrivain indépendamment de ses convictions. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas l'habitude du prix Nobel, ce n'est pas ce qui est prévu par le testament de Nobel, etc. Donc c'est juste ce point que je voulais souligner.
Et comme ça, on a eu ce petit débat tout à fait dans l'actualité, parce que le prix Nobel s'était donc décerné aujourd'hui, comme chacun le sait. Je rappelle quand même, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, que Civilisation de Laurent Binet est publié chez Grasset et qu'il est donc grand prix du roman de l'Académie française 2019. Avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute avec David Dana qui va d'abord nous rappeler la question d'hier et nous donner sa réponse.
Qui a écrit la dernière bande? Et la réponse est Samuel Beckett.
Ce soir, nous faisons gagner des invitations pour le festival Histoire de cinéma. C'est à la Cinémathèque de Toulouse. Ça a lieu du 8, c'est-à-dire demain, 8 novembre, jusqu'au 16. Quelle est la question?
Quel écrivain est invité à raconter son histoire du cinéma durant le festival Histoire du cinéma?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com.
Cette émission a été préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, David Dana. Prise de son ce soir, Marie-Claire Oumabadi. Réalisation, Émilie Vanna. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter ou podcaster nos émissions. Nous nous retrouverons demain à 19h pour une dispute consacrée au cinéma. Je serai en compagnie de Lucille Como, Florence Colombani et Antoine Guillot. Nous parlerons des films Adults in the Room de Costa Gavras, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. Il y aura un coup de cœur d'Antoine Guillot pour Quand passent les cigognes, une nouveauté. Palme d'or 1958, le film de Mikhaïl Kalatozov, mais qui ressort en salle. Et puis, je l'ai dit, le journal de la dispute lui sera consacré à ce que peut ou ce que doit la critique après la prise de parole d'Adèle Haenel et le prix Renaud Doué, c'est à Eric Neuhoff.